C'est pas un sentiment de mal-être, c'est carrément une angoisse de vivre. C'est apparu à 14 ans, enfin ça c'est, enfin, mais c'était latent, c'est-à-dire que depuis longtemps j'avais beaucoup, j'étais déjà une enfant très angoissée, une enfant qui était dans la performance sur tous les points de vue, intellectuel, physique, il fallait que je sois la meilleure en classe, la meilleure en sport. Ce trop-plein donc en troisième, vraiment il y a eu donc une décompensation, c'est-à-dire que d'une élève vraiment vraiment excellente, j'ai progressivement baissé, c'était quand même très convenable. J'ai commencé ma moyenne du premier trimestre à 17, j'ai terminé avec 14. Alors ça se transparaît pas vraiment, mais ça se transparaît, enfin ça se voyait, ça se laissait percevoir par le comportement, puisque j'étais extrêmement agressive, que j'étais très 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 mal, que c'est tellement de l'ordre du ressenti justement et pas de l'intellect que on est submergé émotionnellement, on a aucun espoir, on est de la merde, j'étais une merde qui n'arriverait à rien, je me dégoûtais, donc je ne voyais qu'une solution pour moi et aussi pour les autres, parce que j'avais l'impression donc de rendre les autres malheureux, ma mère, ma sœur, il n'y avait qu'une solution, c'était de fuir et de partir. Et j'en suis arrivée en troisième, fin troisième, à faire une tentative de suicide, parce que je ne supportais pas de vivre.
Les personnes sont handicapées parce qu'elles ont le handicap de la perte de repère de soi et du repère de comment on va réagir aux choses. Donc c'est handicapant et c'est angoissant. Donc c'est un handicap fonctionnel, on peut le dire très clairement. Et c'est aussi handicapant puisque ces phénomènes, les personnes qui en souffrent ont du mal à le partager avec d'autres, puisqu'elles vont avoir le sentiment d'être pris pour des fous, pour des gens bizarres, pour des gens incohérents. Donc il y a une sorte de, au minimum, de double handicap. Ce qui est vécu par certaines personnes sont des choses extrêmement angoissantes et peuvent avoir une composante, le maximum de l'angoisse, ce sont aussi les idées après mortifères qui peuvent s'accompagner. Et on peut tout à fait imaginer que ça colore l'humeur de façon négative. C'est-à-dire que ça entraîne un affaissement de l'humeur et des idées sombres, un peu morbides. Quand on vit une situation angoissante prolongée, c'est à risque de se déprimer et d'avoir des idées noires, voire suicidaires.
C'est un appel au secours entre guillemets, mais on va pas la laisser. Enfin voilà, on va pas mettre en place une thérapie, un soutien médical. Donc je pars en vacances d'été et là j'arrive en seconde et là c'est l'anéantissement, c'est-à-dire que moi qui étais excellente élève, je me retrouve en classe complètement submergée parce que incapable de suivre les cours car trop justement obsédée par ma propre souffrance. Il n'y avait que ma souffrance, que mon mal-être qui existait. Je détestais la vie. Justement, je reçois un 4 en histoire, je rentre chez moi, je roule un ouinge, je prends des médicaments et c'est fini quoi. C'est fini. Il n'y a aucune autre solution.
La dépersonnalisation, c'est ce que peut ressentir une personne quand elle perd ses repères, notamment ses repères d'identification, où elle ne sait plus qui elle est, en quelque sorte, et ne sait plus forcément comment elle va réagir. Donc c'est une sorte d'une perte de l'unité de la personne en elle-même. Et cette dépersonnalisation, ça touche des grands aspects, des aspects intellectuels, des aspects affectifs, des aspects du comportement, des aspects corporels. Alors, dépersonnalisation, c'est un terme générique. Mais finalement, chacun des aspects peut être touché de façon différentielle. On n'a pas forcément tous les aspects touchés chez une même personne. C'est une modification de l'identité de la personne. Cette modification, elle est de durée variable. Soit c'est quelque chose de très bref et de peu intense, auquel cas c'est même pas qualifié, on qualifie pas ça de trouble. Soit c'est quelque chose de beaucoup plus prolongé et de beaucoup plus intense, et alors là, on parle de trouble ou de maladie. Quand on dit que c'est un symptôme, ça veut dire que ça se retrouve dans différentes maladies psychiatriques. Ça va des troubles anxieux, en passant par des troubles de l'humeur, c'est-à-dire les dépressions et autres, en passant par des états délirants.
Si on l'hospitalise pas d'urgence, à son insu, enfin voilà, faut signer une décharge, elle refera une troisième, elle y passera. Donc là, ma mère a signé une hospitalisation donc, d'urgence. Ils m'ont transféré à Sainte-Anne pendant 4 jours parce qu'il n'y avait pas de place dans des hôpitaux spécialisés pour les adolescents. Donc là, Sainte-Anne, ça a été mais incroyable. J'ai des comme ça, j'ai des flashs, je me réveille en fait dans la nuit, j'avais une perfusion, j'arrache ma perfusion, je me suis endormie dans mon sang. Le lendemain, je me réveille, j'ouvre la porte, et là je vois mon père et ma mère, je me jette dessus pour les défoncer, et là mon père me fait une prise de Viet Vo Dao parce qu'il est ceinture noire de Viet Vo Dao, il me met à terre. Donc la haine, j'ai essayé de m'enfuir de Sainte-Anne sans mes chaussures. On m'a rattrapé en courant. Enfin bon, c'était vraiment, j'étais, c'est-à-dire que maintenant quand je suis lucide, dans un état lucide, je ne connais pas la personne. Enfin, j'ai du mal à vraiment à me dire que cette personne qui est en crise, c'est moi. Parce qu'il y a vraiment voilà une dissociation entre deux personnalités, entre une personnalité qui arrive à raisonner, à intellectualiser et donc à prendre du recul par rapport à des fois des sursauts de d'émotions un peu angoissantes, et une personne qui n'arrive pas du tout et qui se laisse complètement emporter par l'affectivité. Je ne conceptualisais pas encore la rupture, la dissociation entre mon moi intellectuel et mon moi émotionnel. Tout ça c'était englobé.
Soudain, en deçà de tout, je glisse vers le point d'inexistence de chaque objet. Le moi, une étiquette. Parallèle à mon visage, je me mire dans mes regards. Chaque chose est autre. Tout est autre. Quelque part, un œil qui m'observe. J'ai peur et puis je suis extérieur à ma peur. La durée se momifie, le devenir est devenu. Plus aucune parcelle d'air où respirer ou crier. Le souffle est nié, l'idée se tait, l'esprit fut. Émile Cioran.
Étrangeté, angoisse, doute, c'est des choses qui reviennent. Perplexité, l'attitude figée, c'est des choses qui reviennent. Et vous comprenez bien qu'on est dans quelque chose qui peut s'emballer. C'est-à-dire que si on a un phénomène où on est un petit peu perplexe, l'impression d'être un automate, de plus savoir tout à fait qui on est, tout à fait où on est, d'avoir un bouleversement de ses émotions, ça peut avoir été déclenché par l'anxiété, mais le fait de vivre ça est en soi très anxiogène, et ça peut aggraver les choses, et ça peut s'emballer en quelque sorte. Pour les personnes qui souffrent d'un trouble connu, avéré, comme une schizophrénie, comme une dépression, la dépersonnalisation peut effectivement survenir à l'occasion d'une recrudescence anxieuse ou d'un événement extérieur particulièrement angoissant. Donc il y a probablement un lien entre l'anxiété et l'augmentation de la dépersonnalisation. Mais dans certains troubles, la dépersonnalisation est relativement prolongée. Et là, c'est pas l'anxiété en elle-même qui la crée, mais elle modifie l'intensité et elle modifie le nombre de composantes atteintes entre les affects, entre les émotions, entre le comportement, entre l'intellect.
Et j'ai toujours encore maintenant une grosse angoisse avant de m'endormir. Je recule, je repousse le plus longtemps possible le moment d'aller se coucher.
Tu te sens comment? Tu peux décrire comment tu te sens?
Ah bah c'est une angoisse. C'est l'angoisse de vivre, c'est l'angoisse de ne pas arriver au but que je me suis atteint. C'est un mal-être, c'est le fait de ne pas être satisfaite de soi. C'est le fait de devoir aussi tout le temps anticiper. Alors demain, il faut que je fasse ça, je vais nanana, comment je vais arriver à faire ça. Donc on n'est jamais dans le moment présent. On est soit dans une anticipation horrible de l'avenir, soit dans une rétrospection horrible encore du passé.
Mais tu avais des temps pour aller, est-ce que tu disais le matin, tiens, je me sentirais mieux que ce midi ou que ce soir, est-ce que c'était toujours, ça fluctuait ou c'était toujours identique pour toi?
Non, ça fluctuait, mais j'étais pas capable de me rendre compte, tiens là, et je me disais pas, tiens là, ça va mieux. Ça se manifeste inconsciemment par un comportement, on est peut-être plus, plus détendu, moins nerveux, moins oppressé, mais...
Certaines personnes décrivent des fluctuations au cours de la journée qui sont peut-être aussi des fluctuations du niveau d'anxiété, de la charge émotionnelle, de pas mal de choses. Donc ces phénomènes-là sont fluctuants chez certains dans la journée, sont fluctuants sur des périodes aussi, et ça dépend beaucoup de l'environnement, éventuellement des thérapeutiques initiées, de pas mal de choses, de la consommation de substances. Mais effectivement, il y a des fluctuations chez une même personne.
De toute façon, mes rares heures de sommeil étaient généralement interrompues à 3 heures du matin. Et je restais alors là, le regard perdu dans les ténèbres béantes, à réfléchir torturé par une souffrance intolérable aux ravages qui s'opéraient dans mon esprit, et à attendre l'aube qui, d'habitude, me valait de sombrer un temps dans un sommeil fiévreux et sans rêve. William Styron.
Je suis addict depuis l'âge de 15 ans. Je ne conçois pas ma vie sans fumer. Je ne peux pas me dire un jour, si je ne fume pas, je meurs.
Tu fumes combien de fois par jour ?
Oh, ça dépend. Quand je suis très, très, très angoissée, je peux fumer 5 à 6 joints. Quand ça va mieux, je peux en fumer... Quand ça va vraiment, vraiment, vraiment bien, je peux en fumer 3. Ça a un effet sur le moment de décontraction. Alors moi, je le prends absolument pas pour un effet de décontraction intellectuelle, parce que pour le coup... Je dis que ça ne me fait rien intellectuellement, même si je pense que si je n'avais pas fumé, j'aurais peut-être déjà mon CAPES et j'aurais peut-être quand même eu une capacité à être moins déconcentrée et à produire dans la durée beaucoup plus longtemps. Parce qu'en fait, le shit, ça aggrave ce qui soulage. Ça, c'est une phrase du docteur Ritz de l'hôpital Montesson, une phrase qui vraiment, moi, me parle. C'est-à-dire que ça soulage un temps, mais ça aggrave ce soulagement parce que ça le... les effets secondaires de ce soulagement sont complètement néfastes. Voilà. Et c'est vraiment un cercle vicieux et c'est vraiment horrible. C'est là pour moi, c'est mon ennemi premier, c'est mon meilleur ennemi. C'est mon meilleur ennemi parce que je ne conçois pas de vivre sans lui et en même temps, mon objectif là premier, c'est d'arriver à me débarrasser de lui. Je dis lui, hein, c'est comme une personne presque. Hein. Donc il a vraiment un rôle quoi. Il a un rôle comme l'objet transitionnel à son rôle.
Tout à l'heure, tu jouais avec tes mains.
Non, je joue pas avec mes mains, je joue avec mon doudou.
D'accord, t'as toujours ça avec toi.
Toujours ça avec moi. Je le prends même. Alors, il est évident que en classe, je ne vais pas. Quand je donne des cours particuliers, je ne le montre pas. Mais en cours, quand je vais en cours, j'en coupe un tout petit bout que je gratte comme ça parce que ça me désangoisse. Ça me permet d'être là.
La prise de substances psychoactives, de drogue, que ce soit des stimulants, que ce soit le cannabis. Peuvent entraîner chez certaines personnes exactement ces phénomènes-là, qui sont la modification de la perception du temps, une modification de la perception éventuellement de ses limites corporelles, une modification de ses émotions et de ses mouvements, ou de l'unité de tout ça. Alors c'est variable d'un sujet à l'autre, c'est variable en fonction de la quantité et de la fréquence des prises, mais c'est quelque chose qui est quand même assez préoccupant quand on a fait l'expérience de ça, et c'est presque une limitation importante à vouloir consommer ultérieurement.
Toute drogue modifie vos appuis. L'appui que vous preniez sur vos sens. L'appui que vos sens prenaient sur le monde. L'appui que vous preniez sur votre impression générale d'être. Il cède. Une vaste redistribution de la sensibilité se fait qui rend tout bizarre. Une complexe continuelle redistribution de la sensibilité. Henri Michaud.
Je me bats encore aujourd'hui, perpétuellement. je me bats par mes obsessions. Là, tout à l'heure, quand t'es arrivé, je te disais, ça va parce qu'il fait moche, sinon je t'en aurais pas voulu en être arrivé plus tard, parce que s'il avait fait beau, j'aurais pu aller courir. S'il avait courir, je me sentirais mieux dans ma peau, et là, j'aurais peut-être un discours plus positif que maintenant. C'est-à-dire que pour moi, le sport, c'est essentiel parce que sinon, je ne peux même pas des fois sortir de chez moi. Alors par exemple, aujourd'hui, je ne vais pas sortir de chez moi. Je ne peux même pas concevoir l'idée de sortir de chez moi parce que je n'ai pas fait de sport et que je me trouve grosse.
Il y a une problématique, il y a un rapport au corps, je ne sais pas.
Ouais, il y a un rapport au corps et à l'intellect. Donc comme ça, tu vois, j'ai tous les domaines, moi. C'est génial, quoi. En fait, de ma problématique, enfin ma problématique, enfin se déverse sur plusieurs choses. C'est-à-dire que dans ma problématique, il y a plusieurs tiroirs. Il va y avoir donc une dépression qui consiste à tout le temps voir les choses en noir, à tout le temps avoir l'impression que les choses sont insurmontables, à se sous-estimer complètement tout le temps sur le plan intellectuel. Et il y a aussi donc un autre côté qui a un côté extrêmement nerveux, extrêmement agressif parfois, extrêmement violent, et à notre côté il va y avoir des troubles du comportement qui vont y être associés, donc des troubles du comportement de alimentaire, donc une grosse obsession du corps, là par contre de l'image narcissique, donc avec des crises de boulimie quand même très très fréquentes, mais des boulimies non vomitives. En fait, il se passe que j'ai une capacité d'absorption déjà depuis petite, je suis une grosse mangeuse, mais je peux faire des repas, trois repas en un, en fait. Je vais déplacer certaines névroses par d'autres névroses. Voilà. Mais ça, c'est pas forcément négatif, parce qu'à un moment donné, on arrive à détruire toutes les névroses. C'est-à-dire que là, par exemple, j'avais déplacé donc mon côté très très dépressif par une névrose alimentaire de contrôle. Ok ? Mais quand tu. Quand tu mets ton corps en carence, quand à un moment donné, il dit non, surtout moi qui ai j'ai une masse osseuse et une masse musculaire très importante, donc je ne peux pas descendre, je mesure 1m71 par exemple, et je ne peux pas descendre en dessous de 58,5 kg, sinon je n'ai plus mes règles, j'ai plus mes règles pendant 6 mois. Parce qu'à 58,5, je n'ai pas assez de masse graisseuse pour pouvoir enfanter.
Tu t'aimes pas ?
Non.
Pas du tout ?
Non. Il y a peut-être certaines choses que j'apprécie, que maintenant avec lucidité j'arrive donc à prendre du recul. Par exemple, voilà, j'arrive à me dire bon, effectivement, t'as physiquement, par exemple, t'as une très belle bouche, t'as un très beau nez, bon, t'as un visage quand même qui est plutôt joli, voilà. Mais il est toujours cet aspect où j'essaye de me valoriser est toujours rattrapé par, en même temps, t'as des tellement cuits, tellement musclés, tellement gros, enfin tu vois, que voilà, que non, quoi, enfin tu vois, tu dégoûtes un peu ta race, quoi.
Mais par rapport au morphé, au corps, tu te sens déformé, tu te sens mal formé, tu te sens, c'est quand même bizarre.
Ouais, c'est très étonnant. Sarah, donc ma meilleure amie qui est psy pour le coup, elle dit que c'est un peu une sorte de dysmorphophobie, c'est-à-dire que je ne me vois pas comme je suis. Je ne me vois pas physiquement comme je suis. Moi, j'ai quand même tendance à croire que je me vois comme je suis. Mais ça vient vraiment de ce qu'on m'a renvoyé petite, de ce que mes parents m'ont renvoyé, de ce que mon père m'a renvoyé petite.
Tu lui en veux à ton père ?
Ouais, je lui en veux. En même temps, aujourd'hui, je lui pardonne sur certains points.
Tu l'as eu au téléphone tout à l'heure, ça a l'air de bien se passer.
Ouais, parce que là, on est en thérapie justement familiale depuis un mois, ce qui a eu une grosse engueulade. Les relations sont... Depuis 18 ans, j'essaie de reconstruire une relation avec lui, mais on passe toujours par... c'est quand même en dents de scie, quoi. Hein, des fois ça va et hop, ça va plus. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une grosse engueulade donc, au mois de décembre, au moment de Noël, et que je ne l'ai plus vu donc, pendant un mois, et que de là, on a décidé donc, de faire une thérapie, enfin, d'aller voir une médiatrice familiale. Et donc là, le dialogue est un petit peu renoué. Mais c'est compliqué parce que c'est une personne que j'admire énormément et en même temps que je déteste, quoi, voilà. Que j'aime et que j'admire énormément, mais en même temps que je déteste. C'est l'ambivalence totale.
j'arrive à m'absorber dans mon crachat, à me plonger dans l'absurde contemplation de mon néant, à m'inclure magiquement dans le point imperceptible de ma subjectivité. Ainsi, de tous les côtés, j'aboutis au suicide moral, à l'étouffement méthodique et opiniâtre de mes facultés. Amiel.
Dans le cas d'une dépersonnalisation fugace, c'est quelqu'un qui n'a pas de troubles particuliers psychiatriques, effectivement, il va en guérir, puisqu'il en fait, il n'en a jamais été malade, en quelque sorte, il n'y a pas eu de retentissement. Par contre, la dépersonnalisation, quand elle s'intègre dans une autre pathologie, là, ça dépend du pronostic de la pathologie elle-même. Et on n'est pas toujours dans des modèles de guérison. Alors, dans la dépression, on peut être dans un modèle de guérison. Si la personne a des sensations corporelles particulières dans le cadre d'une dépression, notamment d'une dépression avec des idées délirantes, l'impression que ses organes vont se modifier ou vont être moins fonctionnels ou vont pourrir, là, on va pouvoir guérir en même temps que la dépression. Quand ça rentre dans le cadre d'une schizophrénie, on le sait, la schizophrénie c'est une maladie relativement chronique, pour lesquelles on a des traitements et une prise en charge, médicamenteuse et non médicamenteuse, on peut avoir une nette amélioration des phénomènes de dépersonnalisation à l'occasion d'une amélioration clinique, voire de rémission prolongée. Donc on peut sortir de la dépersonnalisation, pour certains cette sortie de dépersonnalisation va être incomplète, mais pour le plus grand nombre elle pourra être totale.
Le moment où vraiment je me sens, moi, quand même, sortir un peu vraiment de ces années noires, c'est l'année vraiment de la licence, où, consécration de la licence. Je me suis quand même battue pour l'avoir, même si stratégiquement, j'ai fait des choix. Donc, j'ai consacré beaucoup de temps à la grammaire et pas à la littérature, chose qui maintenant me perd un peu, puisque je me retrouve en préparation là, au CAPES de lettres modernes, et j'ai l'impression de n'avoir rien lu et de ne pas pouvoir, donc si je me retrouve en classe bientôt, de ne pas pouvoir apporter à mes élèves le contenu qu'il faut.
Ensuite, quand Camille Dubois elle se lève le matin, elle se regarde dans la glace,
comment elle s'aime pas.
Comment ça?
Un, elle s'aime pas physiquement. Et deux, elle s'aime pas parce qu'elle est pas assez, elle est pas assez intelligente, elle a pas fait normal sup, elle a pas fait cagne, elle a pas le parcours élitiste intellectuel que mon père aurait voulu que j'aie, et qu'il faut, enfin voilà, et que moi dans ma perspective d'enfant, je tendais vers ça et en même temps je renie absolument pas mon parcours parce que c'est ce qui fait aujourd'hui que j'en suis plus forte et que je veux justement pouvoir aider des enfants qui sont en galère et que le système n'aide pas et que les parents ne peuvent pas forcément aider, bref, et qui sont pas pour autant plus bêtes que les autres.